Et sur France Info, voici maintenant le médiateur de Radio France. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Lia Ferrandi, bonjour à tous.
Chaque semaine, les auditeurs vous interpellent en attendant le samedi pour entendre vos réponses. Des réponses qui portent aujourd'hui sur les attentats de ces derniers jours à Londres, à Kaboul, en Égypte aussi. Une actualité qui a suscité beaucoup de réactions. Et pour y répondre à vos côtés Bruno, il y a Grégory Philips, le directeur adjoint de la rédaction de France Info.
Grégory Philips, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, ces attentats ont forcément ému nos auditeurs qui apprécient la couverture de ces événements par France Info. Toutefois, quelques-uns s'étonnent, comme Christian, que vous ayez donné plus d'importance aux attentats de Manchester et Londres plutôt qu'à celui de Kaboul, qui a fait 150 morts la semaine dernière. Les morts, d'où qu'ils soient, n'ont-ils pas la même valeur, nous dit-il.
Pourquoi le nier? Il y a un sentiment de proximité avec ce qui touche nos voisins britanniques plus que ce qui touche les Afghans. Donc oui, on en fait un peu plus à l'antenne. Il y a un deuxième point très concret, c'est que aussi Londres est tout proche, que c'est facile d'envoyer des reporters, et on a envoyé de nombreux reporters sur ces événements.
Il y a même un correspondant sur place.
Il y a un correspondant sur place. C'est beaucoup plus compliqué d'aller à Kaboul. On a une pigiste qui s'appelle Sonia Ghezali qui vit à Kaboul et qui travaille pour nous là-bas. D'ailleurs, je tiens à saluer le travail qu'elle a fourni pendant ces attentats parce qu'elle nous a très bien informés sur ce qui se passait.
Parce qu'on en a parlé aussi, de toute façon.
Évidemment. Mais c'est plus compliqué d'avoir des envoyés spéciaux à Kaboul, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que c'est une ville effectivement dangereuse. Donc il y a aussi cet aspect de facilité d'envoi de troupes rapidement sur zone qui fait que oui, on va évidemment plus facilement à Londres qu'à Kaboul, dans des conditions évidemment extrêmement compliquées pour les journalistes qui sont en Afghanistan en ce moment.
À ce propos, une question que nous posent assez souvent les auditeurs, que se passe-t-il quand vous apprenez qu'un attentat s'est produit? Alors faites-nous un peu pénétrer dans les coulisses de la rédaction, nous sommes samedi dernier. Comment êtes-vous alerté? Que faites-vous?
Souvent, on est alerté maintenant par les réseaux sociaux. On voit quelque chose monter sur Twitter ou sur Facebook et évidemment, avant de le donner à l'antenne, on le vérifie. C'est-à-dire qu'on appelle immédiatement notre correspondant à Londres pour qu'on ait d'abord une première confirmation d'un événement. Et ensuite...
Avant de l'annoncer, évidemment.
Avant de l'annoncer, évidemment. Et c'est une fois qu'on a la confirmation qu'il s'agit d'un événement grave et terroriste qu'on enclenche tout ce que vous avez entendu à l'antenne, c'est-à-dire des éditions spéciale et on envoie un nombre assez important de reporters sur place.
Et quels moyens techniques, par exemple, sur place?
Les reporters sont généralement accompagnés d'un ou de plusieurs techniciens qui permettent de diffuser en direct des témoignages, des interventions grâce à des valises satellites ou des téléphones 4G, etc. En général, c'est un couple qui part, un technicien, un reporter.
Les informations proviennent forcément de plusieurs sources. Comment peut-on harmoniser tout cela?
Écoutez, ici à France Info, on a mis en place ce qu'on appelle l'agence France Info. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui passe son temps à vérifier des informations. Parce que dans le cas d'un attentat, par exemple, il y a un bruit médiatique très fort avec ce que racontent les médias du pays concerné, les réseaux sociaux.
Les témoins aussi, parfois.
Les témoins, la concurrence, les autres radios, télé françaises, etc. Donc cette agence centralise toutes ces infos et les vérifie. Une fois qu'elles sont vérifiées, elles ont un tampon, si vous voulez,
une validation,
et sont transmises à tous les présentateurs de France Info qui peuvent donner ces informations. Donc parfois, on prend un peu de retard sur, par exemple, un bilan qui évolue, etc., ou la présence de Français ou non parmi les victimes, mais on préfère toujours avoir 5 ou 10 minutes de retard et être sûr qu'on vous donne une info vérifiée.
Enfin, il y a une question qui revient systématiquement une fois les terroristes identifiés. Pourquoi mettez-vous leurs photos sur votre site? Ce sont des terroristes qui n'ont pas à être glorifiés, nous écrit Alain. Il faut expliquer, Grégory Philips, que les rédactions de Radio France, comme la plupart des médias français, ont adopté une position précise à propos des noms et des photos des terroristes.
Oui, on a beaucoup réfléchi. Faut-il les anonymiser? On s'est dit que non, qu'il fallait donner les noms. C'est une information. Et si on ne les donnait pas, ça pourrait prêter le flanc à des critiques venant, vous savez, des adeptes de la théorie du complot. Pourquoi vous cachez leurs identités, etc. Donc, on a décidé, on donne les noms et c'est comme ça. C'est une information. Quant aux photos, on publie parfois sur nos sites internet des photos d'identité, pas des photos de propagande. Par exemple, si ce sont des gens qui se revendiquent de Daesh, on n'utilise pas les photos de propagande. Vous savez, ces vidéos où ils se mettent en scène, etc. Juste une photo d'identité très sobre qui, là aussi, nous semble être une information.
Merci Grégory Philips, directeur adjoint de la rédaction de France Info.
Et merci à vous Bruno Donnas, médiateur.radiofrance.fr. C'est l'adresse pour vous écrire. On vous suit également sur vos comptes Facebook et Twitter.